إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, au dernier chapitre du livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui est le chapitre à propos de la parole d'Allah le Très-Haut. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a commencé le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, par ceux qui étaient la cause et ceux qui rend obligatoire d'adorer Allah unique sans lui donner d'associé. Et il finit son livre par le fait d'exposer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la cause de le vénérer. Et il finit ce livre par la cause pour laquelle les gens n'adorent pas Allah comme il mérite d'être adoré. Et ne lui vouent pas un culte exclusif. Pourquoi ? Car ils ne connaissent pas sa grandeur et ils ne le vénèrent pas et ils n'ont pas estimé à Allah sa juste valeur. Puis le Cheikh a cité nombre de hadiths qui, vous allez voir, on va tous les citer l'un après l'autre, qui exposent justement la grandeur et la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont dans le sens de ce verset que nous venons de lire. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, un rabbin vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô Muhammad, nous lisons dans la Torah qu'Allah placera les cieux sur un doigt, les planètes sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau sur un doigt, la terre sur un doigt et le reste de la création sur un doigt. Il dira ensuite, je suis le roi. Approuvant les paroles du rabbin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à rire au point où ses dents se découvrirent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » Ils n'ont pas estimé à Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. Dans une autre version de Muslim, on trouve « Allah placera les montagnes et les arbres sur un doigt, qu'il soulèvera en disant « Je suis le roi, je suis Allah ». Dans une autre version de Al-Bukhari, on trouve « Il placera les cieux sur un doigt, et l'eau et la terre sur un doigt ». Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Muslim rapporte, d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhumain, cette parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah pliera les cieux le jour de la résurrection, et puis les prendra de sa main droite, et dira, je suis le roi, où sont les arrogants? Où sont les orgueilleux? Il pliera ensuite les sept terres, les prendra de son autre main et dira, « Je suis le roi. Où sont les arrogants? Où sont les orgueilleux ?» Cette version de l'imam Muslim, le cheikh a rapporté une version où, dans la fin du hadith, il dit, « Il pliera ensuite les sept terres, les prendra de sa main gauche et dira. » Mais cette parole, « les pliera de sa main gauche » est une parole « chaz », isolée. Et les savants du hadith ont dit que la parole qui est juste, c'est « il prendra la main, il prendra les cieux de son autre main ». Puis le cheikh a cité, on rapporte d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'il a dit, « Les sept cieux et les sept terres dans la main du très miséricordieux sont comme une graine dans la main d'entre vous. » Cette parole d'Ibn Abbas, elle est rapportée par Ibn Jarir, Tabari, avec une chaîne de transmission faible. Puis Ibn Jarir a dit, « Yunus m'a rapporté, d'après Ibn Wahb, qu'il l'a informé, qu'Ibn Zayd lui a dit, « Mon père m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, comparé au repose-pied, le repose-pied c'est Al-Kursi. D'ailleurs, j'ai fait un audio spécifiquement sur ce terme. Est-ce qu'il est permis de traduire Kursi par repose-pied? Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube, Inch'Allah. Donc, ici, Ibn Zayd lui a dit, « Mon père m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, comparé au repose-pied, les sept cieux sont comme sept pièces d'argent jetées sur un bouclier. » Donc, la parole d'Ibn Jarir, qu'il a rapportée de Yunus, elle a une chaîne de transmission très faible. Concernant la parole d'Abu Dhar, qu'il a attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est rapportée par Al-Bayhaqi dans l'Asma wa Sifat, elle a une chaîne de transmission faible aussi. Puis le cheikh a cité, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, la distance séparant le premier ciel du deuxième est de 500 ans de cheminement. Et entre chaque ciel et le suivant, il y a 500 ans. La distance séparant le septième ciel du repose-pied, Al-Kursi, est de 500 ans. La distance séparant le repose-pied de l'eau est de 500 ans. Le trône est au-dessus de l'eau et Allah est au-dessus du trône et aucune de vos actions ne lui échappe. Rapporté par Ibn Mahdi, d'après Hammad ibn Salama, d'après Asim, d'après Zir, d'après Abdullah ibn Mas'ud. Ces propos ont aussi été rapportés par le Mas'oudi sous une forme légèrement différente, d'après Asim, d'après Abu Wa'il, d'après Abdullah. C'est ce qu'a déclaré Al-Hafidh al-Dhahabi, rahimahullah, en ajoutant, ces propos ont aussi été rapportés selon d'autres voies. Donc ces propos de Abdullah ibn Mas'ud ont été rapportés avec une chaîne de transmission acceptable. Et quand un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte des propos concernant les choses invisibles, l'au-delà, le paradis ou l'enfer, même s'il n'a pas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette parole a le statut d'une parole dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas se permettre de dire des choses sur l'invisible, de dire des choses sur le paradis, de dire des choses sur l'enfer, de dire des choses sur les sept cieux, sur la distance qui les sépare, sans qu'il n'ait eu une science de cela. Et comme ceux-ci font partie des choses de l'invisible, la seule manière qu'il ait eu une science de cela, c'est qu'il ait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça les savants ont dit que cette parole, ce athar de Abdullah ibn Mas'ud, lahu hukmur raf'i, il est considéré comme une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'a pas pu connaître cela sans... Il n'a pu connaître cela que par le biais de la révélation. Puis le cheikh a rapporté. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, connaissez-vous la distance séparant le ciel de la terre? Nous répondîmes, Allah et son prophète. Nous répondîmes, Allah et son prophète en sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, la distance les séparant est de 500 ans de cheminement. Et entre chaque ciel et le suivant, il y a 500 ans. Et l'épaisseur de chaque ciel est l'équivalent de 500 ans de cheminement. Entre le septième ciel et le trône se trouve une mer dont la distance séparant la surface du fond est équivalente à la distance séparant le ciel de la terre. Et Allah, Azza wa Jal, est au-dessus de tout cela, et aucune des actions du fils d'Adam ne lui échappe. Rapporté par Abu Daoud et d'autres. Ce hadith, qui est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah, a une chaîne de transmission faible. Mais il vient renforcer, on va dire, à peu près dans le même sens que la parole d'Ibn Mas'ud précédente. Donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a conclu ce livre avec ce chapitre d'une manière remarquable. En effet, quiconque connaît le contenu réel de ce chapitre en termes de description d'Allah Azza wa Jal ne peut en vérité que s'emplir d'humilité et se soumettre complètement au Seigneur et Maître de l'univers subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ Ils n'ont pas estimé à Allah sa juste valeur. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas vénéré comme il mériterait de l'être. Car s'ils l'avaient vénéré comme il se doit, ils n'auraient adoré que lui et ne lui auraient pas donné d'associé dans son adoration. Ainsi, si tu médites au sujet de ton Seigneur, le puissant, le sage, celui qui se caractérise par les attributs de la magnificence, lui qui est au-dessus de son trône, à ordonner, à interdire, dans son royaume immense, la terre étant considérée comme le plus petit élément de ce royaume. Il déverse, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bienfaits sur qui il veut. Il éloigne les maux de qui il veut. Il est le responsable des bienfaits et des largesses qui touchent l'humanité. Tu vois ainsi les actes d'Allah Azza wa Jal dans les cieux, et l'adoration des anges dans les cieux est orientée vers ce but ultime. Puis tu vois qu'Allah, l'immense, l'éminent, caractérisé par ce royaume immense, s'adresse à toi, toi le serviteur méprisable et vil, et il t'ordonne de l'adorer, lui, seul, sans lui donner d'associé. Ceci est un honneur pour toi. Si seulement tu te rendais compte, il t'ordonne aussi de le craindre, ce qui est aussi un honneur pour toi, si seulement tu savais. Et il t'ordonne de lui obéir, ce qui est aussi un honneur pour toi, si seulement tu raisonnais. Ainsi, si tu connais le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, tu connais ses qualités et l'élévation absolue de son essence et de ses attributs, tu ne pourras que te soumettre à lui d'une manière volontaire, faire preuve d'humilité à son égard, t'orienter vers son obéissance et te rapprocher de lui au moyen des choses qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. De plus, si tu récites ces paroles, tu récites en fait les paroles de celui qui s'adresse à toi par des ordres et des interdits. Ceci engendrera en toi un respect et une vénération hors du commun. C'est la raison pour laquelle une des causes de l'enracinement de la foi dans le cœur et de la vénération du Seigneur subhanahu wa ta'ala consiste en ce que le serviteur médite et réfléchit sur le royaume des cieux et de la terre, comme l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif de méditer sur la beauté de la création et le royaume des cieux et de la terre est d'atteindre la certitude, et non pas de connaître le détail des choses sans que ceci ne nous pousse à vénérer Allah, à l'aimer, à l'adorer, à le craindre, à lui obéir, subhanahu wa ta'ala. Puis le Cheikh Rahimahullah, comme à son habitude, a fini en citant les points à retenir de ce chapitre, de ce dernier chapitre. Premier point, l'explication du verset Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Il fera de la terre entière une poignée le jour du jugement dernier. Deuxièmement, ces sciences et autres sciences similaires étaient présentes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les écrits des juifs sans que ces derniers ne les renient ni ne les interprètent. C'est-à-dire, les sciences concernant les noms et les attributs d'Allah, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a une main, a des doigts qui ne ressemblent pas aux mains et aux doigts des créatures. Rien ne lui est semblable, subhanahu wa ta'ala. Il a une main et des doigts qui lui sont propres, qui sied à sa magnificence et à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Et on voit qu'au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même les juifs qui sont venus lui parler, il n'avait aucun souci à citer ses noms et ses attributs d'Allah, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutaient et les citaient et y croyaient sans les nier et sans les interpréter, non pas comme les innovateurs qui sont venus après les premiers siècles. Troisièmement, lorsque le rabbin tint ses propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci l'approuva et des versets du Coran ont été révélés confirmant cela. Donc les compagnons, ils ont compris que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé ici, il a ri d'approbation et non pas pour se moquer. Et si un compagnon a compris cela alors qu'il était présent dans l'assise, alors on doit le comprendre comme eux l'ont compris. D'ailleurs, la preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité après cela un verset allant dans le même sens. Quatrièmement, le rire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le rabbin mentionna ses connaissances si importantes. C'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri c'est-à-dire de joie et d'approbation. Cinquièmement, la mention est clairement faite des deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait que les cieux seront dans sa main droite et la terre dans l'autre main. Car en vérité, comme ils disent les savants, on ne dit pas la main gauche pour Allah subhanahu wa ta'ala. On dit qu'Allah a deux mains, sa main droite et son autre main. Car en réalité, il n'y a rien d'authentique qui a été rapporté pour dire autre chose que cela. Sixièmement, la mention claire que l'autre main est désignée par la main gauche. Donc ça, c'est contrairement à ce qui est le plus juste. Ça, c'est ceux qui ont vu que la parole ici qui est rapportée dans le hadith de Muslim, ce n'est pas une parole shadh, isolée. Mais l'avis le plus juste, comme l'ont rapporté les Huffaz, c'est que cette parole est shadh et qu'en réalité, la parole juste dans ce hadith, c'est l'autre main et non pas la main gauche. Septièmement, la mention des arrogants et des orgueilleux dans une telle situation, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Huitièmement, la parole d'Ibn Abbas, de point, et qui est équivalent à une graine dans la main de l'un d'entre vous. Neuvièmement, l'importance du repose-pied par rapport aux cieux. Ça, on le trouve aussi dans le Coran. Son repose-pied est plus large ou englobe les cieux et la terre. Dixièmement, l'importance du trône par rapport au repose-pied. Onzièmement, la différence entre le trône, le repose-pied et l'eau. Douzièmement, la distance séparant chaque ciel du ciel suivant. Treizièmement, la distance séparant le septième ciel du repose-pied. Quatorzièmement, la distance séparant le repose-pied de l'eau. Quinzièmement, le trône est au-dessus de l'eau. Seizièmement, Allah est au-dessus du trône. Dix-septièmement, la distance séparant le ciel de la terre. Dix-huitièmement, l'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans. Dix-neuvièmement, la distance séparant la surface du fond de la mer se trouvant au-dessus des cieux est équivalente à la distance séparant le ciel de la terre, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, du dessus de son trône, rien ne lui échappe. Subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de son trône, mais il est avec nous avec sa science, son pouvoir, sa connaissance, sa direction. Subhanahu wa ta'ala, son aide, son secours, il est plus proche de l'un d'entre nous que sa veine jugulaire avec sa science, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui échappe. Malgré qu'il soit, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de son trône, d'une manière qui lui est propre et qui sied à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Nous louons Allah qu'il nous ait permis d'étudier ce livre ensemble, de le lire en entier et de le commenter en entier, en espérant que l'on retrouve cela dans la balance de nos bonnes actions, le jour où ni bien ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Wallahu a'lam. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.